Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, on est ensemble jusqu'à midi. On parlait de cinéma, hein, pour être tout à fait honnête. C'est vrai que la disparition de Nathalie Baye nous a tous un petit peu sidérés là. Et vous tous, j'imagine, les auditeurs et auditrices. Une grande dame du cinéma français et de la culture française qui est partie, évidemment. Fred Weiss est avec nous, Alizé Cornet, Julien Beneteau, Simon Dutin avec nous dans un instant. Punchline, on va revenir au sport, signé Clément Poitrenaud, l'un des entraîneurs du Stade Toulousain, qui nous dit que nous sommes trop durs avec Antoine Dupont, qui est un petit peu moins performant, moins vif en ce moment. Faut-il être patient ou exigeant avec le capitaine du 15 de France? Vous pouvez retrouver la première heure des grandes gueules du sport en podcast, évidemment, sur toutes les plateformes. Vous êtes de plus en plus nombreux, d'ailleurs, et on vous remercie à nous écouter en podcast. En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Aujourd'hui, remportez votre séjour d'une semaine à Lagrange Vacances pour 4 personnes pour prendre le large en France et toute l'année, hein, puisque vous pouvez programmer votre séjour sur un an pour remporter vos futures vacances. Lagrange Vacances, envoyez sport, S-P-O-R-T, au 7-32-16, sport au 7-32-16. Mais d'abord, là, on va parler de nous tous et nous toutes, notre consommation du sport, tiens. Sur le ring, posez-vous la question, tiens, tous ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous arrivez encore à vous concentrer pendant l'intégralité d'un match ou d'un événement sportif sans prendre votre téléphone?
RMC, le ring des GG.
Moi j'aime la pause.
La balle de 7ème trophée en quelques mois pour le PSG. Elle est au bout du pied de Désiré Doué. S'il marque face à Rouli, c'est gagné pour Paris. Doué.
Une pause par-ci, puis on relâche par-là.
Il joue presque les lignes, Sinner, c'est insensé. Vous entendez Nathalie qui murmure là? Oh, les champs de balade, oh. Et ça sort.
Non, rien. Excusez-moi de vous avoir interrompu.
Allez. Il sait qu'il a la pression. Il a la gagne,
allez,
du tournoi.
Allez,
pour l'emporter 48-46.
Le tournoi, il est là à bout de ton pied.
Thomas Ramos qui s'élance. Ce ballon qui part. Thomas Ramos.
Quoi encore?
Et oui, c'est ça, on se fait embêter par les notifications, notamment, et le téléphone qui vibre souvent pendant les événements sportifs. Pourquoi on vous parle de ça? Parce que cette semaine, une étude de TIDS menée par Census White, c'est eux qui ont déterminé cette étude, révèle que 51% des Français utilisent un second écran quand ils regardent du sport en direct, donc smartphone, tablette ou ordinateur, pour commenter, consulter des stats ou commander à manger, ou autre chose, par exemple, pendant un événement sportif. Et ce n'est pas marginal, puisque on a un problème que 30% font des achats en ligne pendant un match, par exemple. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le double écran enrichit l'expérience du sport ou est-ce qu'elle tue un peu la passion? Ça nous concerne toutes et tous. Les GG, je vous pose cette question ce matin. Sait-on encore apprécier le sport? J'ai deux oui, Alizé et Bennett. J'ai deux noms, Fred et Simon. Alors figurez-vous que sur le compte X des grandes gueules du sport, 50-50 chez nos auditeurs, ils sont très partagés, ouais, sur ce sujet.
Dit oui, moi. Hein? J'avais dit oui.
Moi, j'ai dit non.
Tu veux dire? Bah, t'avais dit non, t'as resté à non, mais c'est normal. Tu dis non, toi?
Non.
Tu changes?
Non.
Mais t'es partagé, en tout cas, j'ai bien compris. Tu es plus nuancé,
oui,
Bennett. Mais je pense qu'on est tous nuancés sur ce sujet. C'est un sujet sur lequel on a travaillé à la rédaction. Vous avez écouté, on va vous écouter au 32-16 dans quelques instants. Camille Borin a posé la question à des personnes qui regardent le sport, notamment Simon, qui est fan de sport. C'est pas toi, Simon Dutin, un supporter du FC Nantes. Il a 25 ans. Regardez ce qu'il nous dit sur le sujet, le double écran et le sport.
Regardez plusieurs contenu sportif en même temps, ça permet de gommer un peu les temps morts. Du coup, tu peux changer de regard et regarder l'autre match. Donc, ça permet vraiment de s'éliminer cette frustration des temps morts. J'ai aussi souvent mon téléphone dans la main. Je vais souvent sur Twitter, donc pour regarder les commentaires du propre contenu que je suis en train de regarder, parce que c'est un réflexe de voir ce que disent les gens, comment ils réagissent. Quand je n'ai plus qu'un sport devant moi, je peux pas regarder plusieurs contenus. Et donc, j'ai plus rapidement le téléphone en main, ça c'est sûr. Et souvent, je vais faire autre chose. Il peut ne plus y avoir du tout de rapport parce que je me rends compte que j'ai du mal à me concentrer, quoi.
C'est affolant.
Il a 25 ans, hein. Je rappelle, tiens, j'ai un message de Frédéric. Frédéric sur WhatsApp qui me dit, non, c'est pas toi, qui me dit, je joue aussi à Candy Crush avec ma tablette pendant que je regarde un match de foot
en même temps.
Il dit en 2015, Frédéric, apparemment.
Non, mais sait-on encore apprécier?
Non, mais l'être humain
n'arrive pas encore à apprécier le sport, Alizé. C'est un vrai sujet.
Plus à se concentrer, en fait. Et on voit, le problème, c'est qu'on voit ce phénomène chez les jeunes athlètes. Les athlètes de haut niveau, chez les jeunes tout court, ils ont du mal à se concentrer, à rester plus de 5-10 minutes dans une activité sans s'éparpiller, sans chercher le téléphone. En fait, on est en train de perdre nos capacités de concentration. Et en fait, ça fonctionne pour la consommation de sport. Alors, ma réponse était oui, mais plus de la même manière. On arrive encore à apprécier les grands événements de sport. Je pense qu'on est au rendez-vous. On a envie de vibrer, on a envie d'être là. Mais par contre, on ne supporte plus les moments creux. On n'arrive plus, en fait, à se retrouver seul avec nous-mêmes pendant plus de 2 secondes. Et ça, c'est vraiment un problème. C'est dans ces moments creux que la créativité s'active, qu'on va dans notre imaginaire. Là, je parle sur un problème de société un peu plus global. Mais là, on est en train de dire qu'on n'arrive plus à regarder un match de foot où il n'y a quand même pas beaucoup de moments creux de rugby ou de tennis.
Ça dépend du match. Ouais. Ça dépend qui joue.
Ça dépend qui joue. Mais à un moment donné, enfin, on est surstimulé. Et ça appauvrit pour moi l'expérience du spectateur et ça appauvrit l'expérience humaine en règle générale.
Non mais ce que vous
d'accord avec ça. Moi. Donc par définition on apprécie moins.
Non parce que Alizé dit que sur les grands événements on est encore connecté quand même.
Moi je suis pas d'accord parce que même sur les grands événements.
Ça m'aurait étonné.
Non mais qu'est-ce qui va se passer sur un grand événement comme sur une Coupe du Monde par exemple? Avant on était tous devant la télé en famille, on regardait ça, on s'enthousiasmait, on ne faisait que ça, on discutait entre nous, mais à l'intérieur du cocon familial entre guillemets ou amical. Là, on est sur le. Bon, on va regarder, on va attendre la fin. On va pas se concentrer sur le début des matchs, par exemple, et on va se dire quand ça commence à jouer, on va regarder. Je prends pour exemple la NBA. La plupart des gens qui regardent des matchs NBA, déjà qu'ils se lèvent, ils se lèvent tôt, mais ceux qui les regardent en rediffusion, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent très peu les 3 premiers quart-temps, c'est-à-dire qu'ils sont sur leur téléphone, ils discutent, etc. Et quand ça devient intéressant, ils regardent. Sauf que le sport, par essence, c'est tout l'effort qu'il y a eu avant aussi. Donc on peut pas considérer qu'on le traite de la même façon qu'avant. Avant, c'était un événement vraiment. Maintenant, avec la société.
Mais est-ce que c'est pas catastrophique, en fait, pour notre connexion à l'émotion sportive, en fait?
Oui, mais toutes les émotions,
on loupe des choses. On loupe des choses.
Mais bien sûr.
Mais en fonction des, quand on parle des événements, alors c'est peut-être pas sur un événement dans sa globalité, mais sur un match, en fonction de l'importance du match, en fonction de, on va être capable de regarder avec intérêt du début à la fin.
Je suis pas sûr, Bennett. Vraiment, je suis réellement. Ouais, et j'aimerais dire que si, mais je suis pas sûr.
Non, mais. Je pense que, en fonction des événements, on est quand même capable de
d'être plus ou moins investi, hein,
exactement,
en fait,
et d'apprécier le sport, et d'apprécier l'événement, et d'apprécier ce qu'on est en train de regarder, en s'adaptant aussi avec ce qu'on met à notre disposition aujourd'hui. Non, mais attends, Simon. Là, il y a eu les quarts de finale de Ligue des Champions. Honnêtement, tu avais PSG.
Liverpool.
Merci. Et en même temps.
Bayern Real.
Tu n'étais pas très concentré.
Non, il y avait Atlético Barça.
Voilà, le Atlético Berceau. Barça.
Le Berceau, ouais.
Le Berceau du football. Barça.
Moi, à mon époque, quand j'étais petit, enfant, etc., on avait le choix de regarder peut-être un match dans la semaine.
On regardait à fond.
On regardait à fond. Mais là, aujourd'hui, tu as la capacité d'avoir double écran. Quand je dis double écran, c'est-à-dire que sur l'écran de ta télé, tu peux passer d'un match à l'autre. Pour le coup, tu suis l'événement correctement. C'est pas pareil que quand tu regardes un truc et que t'es sur ton téléphone à faire autre chose, à aller sur Instagram,
quoi, à commenter sur un comment sur
ça,
sur les
ça c'est pas pareil.
Mais l'offre est trop riche en fait aujourd'hui.
Bien sûr, l'offre est beaucoup plus riche qu'avant. Ils se trompent aussi en rajoutant et en voulant modifier certains formats de compétition pour s'adapter justement à cette génération. En fait, tu t'y intéresses pas plus. Donc c'est pour moi, en fonction des événements, tu arrives quand même à capter l'attention.
Je pense que plus qu'une génération, c'est une époque, d'ailleurs. Je sais pas si que les jeunes sont touchés par ça.
Ça serait hyper hypocrite de dire que nous, quand on regarde, moi quand je regarde du sport, je suis sur mon téléphone aussi.
Oui, bien sûr.
Non, mais en fait, on est tellement concentré sur les artifices à créer autour du sport, est-ce qu'on ne perd pas de vue, en fait, l'intérêt premier de regarder ce genre d'événement, c'est de regarder du sport. Allez, Antoine me dit, ce n'est pas une histoire de concentration, c'est une histoire de plaisir, parce que j'ai l'impression que le sport est devenu inintéressant sur la longueur. Sur le niveau de jeu, Simon.
On est en train de se faire manger par la bête qu'on a nous-mêmes créée et qu'on a nourrie, qui a grossi, qui a grandi, parce que le sport avant, vous le soulignez, c'est la rareté qui fait aussi la valeur et l'appétit que ça suscite, parce que le sport avant c'était un rendez-vous. Désormais, on vit à l'époque du flux. Voilà, tu choisis pas ce que tu vas. Mais c'est comme les journaux papier, la disparition du papier et les notifications d'actu que tu reçois sur ton téléphone. Tu ne choisis plus, tu n'aiguises plus. Là, je te rejoins, Alizé. La curiosité, c'est terrifiant. De la perte de la curiosité, pour moi, c'est la valeur la plus dramatique parmi celles qui se diluent, qui se perdent. On consomme le sport au lieu de le vivre, et parce que on a, Bennett le soulignait, des outils qui nous permettent ou qui nous incitent à le faire. Quand tu vois les expected goals en football, on en arrive à passer plus de temps sur les buts qu'on aurait dû voir que à parler de des beaux gestes qu'on
mais
a.
Mais voilà. là où moi ça reste du sport. Alors qu'il y a d'autres activités, jouer au jeu, commander sur les plateformes, etc. Oui. Ça c'est complètement différent. C'est-à-dire que tu t'ennuies et que tu ne peux plus mais t'ennuyer. Quand il y a un moment de latence dans un match de tennis, de basket, de foot, où il se passe rien. Eh ben tout le monde va se mettre sur le téléphone.
Oui, alors disant, avant, oui, mais avant tu te levais pas ton canapé pour aller.
On ne sait plus s'ennuyer. En fait, on ne sait plus s'ennuyer.
Lisez.
Non, j'ai beaucoup aimé cette phrase. On consomme le sport plus qu'on le vit. Je trouve ça très vrai pour plein de choses et plein de domaines. Et c'est vrai que du coup, ça fait une coupure émotionnelle entre nous et ce qui se passe sur le terrain. Et c'était intéressant ce que disait Bennett tout à l'heure. Il y a deux phénomènes différents. Il y a cette offre de sport qu'on peut avoir qui est beaucoup plus riche qu'avant, où on peut effectivement sur notre télé, par exemple à Roland Garros, passer d'un match à l'autre, regarder finalement tous les matchs et suivre l'actualité en détail. Et il y a le phénomène du téléphone et de ce qu'on peut faire à côté dès qu'on s'ennuie, dès qu'il y a un temps creux, où en fait notre cerveau il est fait pour être tout le temps en mode actif. Et je trouve que c'est pas la même chose. Avoir une offre riche pour le sport, c'est quelque chose de très bien, mais par contre il faut quand même, en fait, il faut se détacher un petit peu de ce téléphone qui nous coupe de nos émotions et de notre implication.
Parce qu'en fait le truc aussi, c'est est-ce que les jeunes générations par exemple qui ne vivent que le sport comme ça vont avoir autant envie de faire du sport s'ils sont à ce point déconnectés de l'émotion, de l'instantané, du match, en fait. C'est ça ce que je veux dire. De faire du sport. Est-ce que tu auras autant envie d'en faire à force de voir ça juste comme un produit de consommation et moins comme une émotion que tu as envie de vivre toi aussi en étant sportif par la
question. Tu ressens plus rien, en fait. Ça tu ressens juste sur les fins de match et en fait, tu vois pas tout le travail. C'est comme à mon époque, on regardait le Tour de France de bout en bout, en fait. Et maintenant, on regarde la fin pour savoir qui va gagner.
Parce que maintenant le tour est diffusé en intégralité.
C'est diffusé en intégralité. Mais est-ce que les gens regardent tout?
Il y a une dévalorisation de l'effort global. En fait. On est là sur le moment qui va nous faire vibrer, mais sans vivre tout ce qu'il y a avant et qui fait monter la mayonnaise.
Sauf que tu veux tout sans effort. Et ça, c'est pas possible. Non, et le sport, c'est exactement le contraire de ça en plus.
C'est quoi les distractions? Donc, on l'a dit, c'est les stats, c'est les paris en ligne,
les
jeux vidéo. Et il y a aussi les jeux qu'on appelle les fantasy. C'est-à-dire qu'ils nous permettent de jouer avec, par exemple, ce qu'on appelle mon petit gazon.
Et les réseaux sociaux,
vous savez.
Ou en mais ça, c'est bien. La Fantasy League, c'est plutôt bien.
Laisse-moi expliquer.
Tu regardes le sport différemment avec la Fantasy League. C'est-à-dire que si tu fais une Fantasy League, tu vas peut-être regarder le match de basket.
Justement.
Pour voir si le joueur que tu as choisi va performer plus que pour.
Parce que c'est ça, en fait. Vous choisissez un joueur dans le jeu et selon ses performances en direct, ça implique votre jeu. On a parlé avec Martin Jacquelin, qui est le cofondateur de MPG, qui nous parle justement de ça, de ce qu'apporte le double écran avec notamment leur jeu.
Il y a des fois, tu peux avoir un match qui est chiant et en fait, grâce justement à une vanne qui est rigolote sur un réseau ou grâce à un fait de jeu dans MPG, et ben ça va t'augmenter ton match et ça va justement te le faire kiffer là où c'est ennuyeux. Donc t'as raison, il y a des fois où le match il est passionnant, il suffit de lui-même et tu devrais balancer ton téléphone. Il y a des fois, à l'inverse, ça va te sauver ton match qui était un peu pourri, un vieux 0-0, tu t'ennuies et tout d'un coup tu continues à le suivre parce que t'as ces petits stimuli qui sont sympas, tu vois.
Non mais c'est ça. Est-ce que ça vient enrichir le direct ou est-ce que ça vient appauvrir l'expérience?
Là où on peut le rejoindre, c'est que en effet, quand t'as des billes sur certains joueurs qui jouent une rencontre, que ce soit à la fantasy ou avec des paris sportifs, tu vas peut-être t'appuyer un FC Metz, FC Nantes que t'aurais pas regardé si t'avais pas un intérêt à le faire. Le problème, c'est qu'avec les nouveaux outils dont on dispose, il y a ce qu'on appelle les highlights, les résumés, les moments forts, et du coup, on s'habitue à consommer le sport d'une façon où il y a une intensité à maximum.
À chaque
fois, t'as envie de voir des buts, voir des beaux paniers, voir des belles actions, et tu le vois dans les études. Comment pourrait-on à nouveau intéresser les jeunes dans l'after? On avait un débat récemment ici sur les jeunes regardent plus le foot, ils s'intéressent plus au foot, et on leur dit mais pour regarder un match de foot en entier, qu'est-ce qu'il faudrait? Et ben la réponse qui arrive,
réduire la durée des matchs.
Donc
mais voilà, c'est pas que dans le foot, hein, c'est dans tous les sports. Bien où d'un sûr. Coup, on a envie que ce soit de plus en plus court, de plus en plus.
Oui, mais est-ce vraiment la solution en fait de valoriser évidemment, de réduire le jeu.
De moins en moins. En fait, à chaque fois, on dira ben finalement on va réduire encore, finalement on va réduire encore. En fait, on s'arrêtera jamais parce qu'on ne sait pas prendre et profiter des instants en fait.
Tiens, on a vraiment envie de vous entendre au 32-16 évidemment. Nathan nous appelle de la Drôme. Salut Nathan, bienvenue dans les grandes gueules du sport.
Salut les enfants, comment ça va?
Bah écoute, ça va très bien et toi?
Bonjour papa, impeccable.
Non, mais est-ce que tu sais encore apprécier le sport toi, tiens par exemple?
Je sais l'apprécier parce que j'ai compris la manière de, comment dire, de le consommer. Moi j'ai 30 ans, je suis né sans internet mais j'ai grandi avec. Je suis rentré dans le sport de manière modérée et puis plus actif avec les paris sportifs. Moi j'ai une manière de jouer qui est assez modérée, c'est que je suis toujours sur mon appli, je vais faire mes paris avant match, je vais garder mon appli ouverte pendant une mi-temps ou la deuxième, je vais l'ouvrir à la mi-temps, mais je suis pas constamment sur mon appli. Sinon, notre cerveau est toujours stimulé, on n'apprécie plus rien. Moi, si je prends un exemple comme le vélo ou comme le foot, c'est dans les moments où il y a des temps calmes, où on fait la sieste de l'après-midi, qu'on arrive à savourer la fin de course. Sinon, ça dévalue le sport. C'est imbuvable, je pense.
Mais non, mais sinon, en fait, on a l'impression que aussi, vu qu'on est déconnecté, un peu plus déconnecté de l'événement sportif, on finit par l'oublier même plus facilement. Ce qu'on disait la semaine dernière, on disait est-ce que vous vous souvenez encore du dernier Euro de foot, par exemple? Et ça fait notamment partie peut-être de tout ça. Tiens, on a Antoine aussi au 32-16 qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Salut Antoine.
Salut les GG.
Est-ce qu'on peut encore apprécier le sport en 2026, selon toi?
Ah bah moi je l'apprécie d'autant plus que quand je regarde un match de foot qui m'intéresse, le téléphone il est posé, j'ouvre pas Twitter, j'ouvre rien, je regarde le match.
Non mais il faut avoir de la discipline en fait, c'est ça.
Il y en a pas beaucoup des comme toi.
Mais moi j'ai pris conscience de ça il y a 10 ans. Donc moi ça fait 10 ans que je pose mon téléphone quand je regarde un match. Et parce qu'à un moment donné je me suis rendu compte que je regardais plus le match, je regardais comment les gens commentaient le match et je commentais un match que je voyais pas, que je regardais plus par rapport à ce que les gens mettaient sur Twitter. Et j'ai dit non, à un moment donné, c'est pas comme ça. Et je me suis aperçu, et c'est exactement ce que tu disais, Georges, il y a 10 secondes, je me suis aperçu qu'après, quand je parlais du match, je me disais, ouais, mais en fait, le but, il était marqué comment? Mais je me souvenais même plus comment l'action, elle avait démarré. Et moi, qui suis un geek du foot, qui mange des matchs de foot à longueur de semaine, ça me plaisait pas d'avoir cette façon-là. Donc, du coup, maintenant, quand il y a un match qui m'intéresse, le téléphone, il est posé, il n'y a pas Twitter. Alors, je rate plein de trucs, parce qu'il y a des gens qui sont très doués pour commenter sur Twitter, il y a des trucs très drôles, etc.
Bien sûr.
Mais c'est pas grave. J'ai vécu mon match. Mon Liverpool-PSG de cette semaine, je l'ai vécu un peu tout seul dans mon coin, mais je l'ai vécu, je me souviens de chaque minute, de chaque instant. C'est comme ça que je veux regarder le football et que j'essaye d'apprendre à mes enfants à le regarder, même si, ils ont 8 et 11 ans et des fois, un match de foot, c'est un peu long.
Et de plus en plus, la transmission est également un arbre de Noël, hein, avec de plus en plus de stats, de plus en plus de choses. Il est même maintenant possible de regarder des matchs de Ligue 1 notamment avec que des stats. Donc, pour nous sortir un peu de l'émotion du match.
Mais tu te rends compte que tu es obligé de t'auto-réguler pour pouvoir regarder un match.
Ouais,
c'est quand même fou. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas besoin de ça. Maintenant, on est obligé de le faire. Et encore une fois, je plaide coupable. Même si j'adore le basket, je regarde les statistiques, je regarde des trucs sur Twitter, sur les réseaux, pendant que je regarde.
Donc il faut aller avec notre époque, parce que finalement, on n'a pas le choix.
Il faut se réguler aussi, quand même.
Oui, et puis être rigoureux au final.
Est-ce que dans les discussions que vous avez eues, tiens, Bennett et Alizé, vous avez connu, vous, le boom des paris, par exemple, dans le tennis. Est-ce que vos discussions avec les fans, avec les spectateurs, ont complètement évolué de par ça, en fait? C'est-à-dire que, est-ce qu'on est venu vous parler que de paris après les matchs, ou est-ce qu'on vous a moins parlé de votre jeu, finalement? Alors, est-ce que vous avez vu un changement?
Parler de paris, non.
Peut-être mieux de ne pas parler de vos jeux, peut-être, non?
Ouais.
Non mais c'est ça.
Non, à un moment donné, parlé, qu'est-ce que tu veux lui dire?
On n'a pas parlé de. Non, c'est les paris. Le fléau des paris dans le tennis, c'est les insultes sur les réseaux sociaux. Mais non, les gens ne nous parlent pas de paris.
Vous n'avez pas l'impression que ça les a déconnectés avec vous?
Non,
en tout cas.
Du tout. Bah,
mais c'est intéressant, c'est d'en parler, hein, parce qu'on n'est pas là que pour taper sur quelque chose. Mais en tout cas, c'est sûr que l'expérience a complètement évolué.
Au basket, ça a changé. Il y a plein de joueurs qui reçoivent des messages quand ils font pas un bon match, quand ils perdent. Maintenant, c'est vraiment, les gens s'intéressent pas.
Ah, mais nous, c'est comme ça depuis 15 ans.
C'est, non, mais c'est scandaleux.
Ah, bah,
c'est,
oui, c'est scandaleux.
Le mot d'affaire rapidement, Simon.
Bah, c'est qu'on peut, dans tout cela, regretter que c'est la part de l'imaginaire, finalement, qui est réduite et au profit de la data et des highlights. La meilleure chose qui pouvait arriver pour un média aussi baroque et traditionnel comme la radio qu'on a le plaisir de pratiquer, parce que je ne résiste pas au plaisir de vous reciter une nouvelle fois ici ce que disait Orson Welles, le grand cinéaste. Il disait la radio, c'est comme le cinéma, sauf que l'écran est plus grand.
Ouais. Orson Welles qui avait fait croire à tous les États-Unis qu'on était envahi par les extraterrestres à une époque. Donc ça, c'était la magie de la radio. Voilà. Est-ce que on sait encore apprécier le sport? Il y a plein de messages sur WhatsApp.
Et alors, c'est quoi maintenant? C'est toujours 50-50?
Non, mais en gros, il y a plein de messages sur WhatsApp qui me disent, bah, attendez, ça existe depuis des années. Il y a les multiplex aussi qui sont apparus pour nous permettre, finalement, d'être concentrés différemment.
C'est un peu différent, les multiplex.
C'est un peu différent,
c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est différent.
Non, mais effectivement, donc, le résultat du sondage, sait-on encore apprécier le sport? Vous dites, oui, à 55% quand même. Donc, vous avez encore de l'espoir, peut-être que, bah, comme Antoine, que je remercie de nous avoir appelé au 32-16 comme Nathan, vous arrivez peut-être encore certains à avoir la discipline sur les grands moments importants, sur les grands événements, bah, de vous connecter à l'émotion. Et en fait, pour nous, c'est déterminant aussi, hein, pour le récit, le narratif, comment on va raconter le sport, bah, que vous restez un peu avec nous et pas seulement sur l'expected pass de Michael Olise, n'est-ce pas, Simon? Allez, on revient dans un instant. Les amis, c'est un vaste sujet dont on reparlera, j'en suis sûr, hein, évidemment, les écrans dans le sport. Mais d'abord, on va parler d'Antoine Dupont. Est-ce qu'on est trop dur ou est-ce qu'il faut être patient avec lui, comme le dit le Stade Toulousain? A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Les grandes gueules du sport savent encore regarder le sport, rassurez-vous. Mais parfois, on a un œil un petit peu partout, notamment Bennett qui regarde ça avec 8 écrans parfois. Il ne rate rien. Les dimanches chez Bennett, ça doit être un truc quand même. Hein.
J'ai pas 8 écrans, j'arrive à splitter mon écran.
C'est vrai. Voilà. Non, mais on a eu plein de messages, hein, là-dessus, sur WhatsApp, notamment. Tiens, Pierre nous dit, pendant le Tour de France, j'ai toujours le programme officiel avec l'étape du jour sous les yeux, avec la grille horaire et le profil. Et parfois, j'ai l'application en complément et la sieste fait aussi partie du programme. Donc, mais c'est vrai que ça vient enrichir l'expérience pour lui d'avoir l'écran en plus. Cédric nous dit, salut les GG, à votre avis, qu'est-ce que je fais en vous écoutant? Je suis à fond sur mon téléphone. J'espère que tu es concentré sur toutes les vannes de Fred Weiss, parce que ça fuse, hein, ce matin, le trash talking. Dans un instant, le j'y crois, j'y crois pas, on va parler tennis, on va parler foot également. Lens est revenu à un point du PSG hier soir. Mais d'abord, donc, c'est le week-end des derbies, tiens, en top 14. 21e journée à vivre en intégralité sur RMC, avec notamment ce soir Castres-Toulouse à 21h. C'est l'occasion de se pencher sur le cas Antoine Dupont, dont les performances soulèvent quelques interrogations. Il avait crevé l'écran pour son retour fin novembre, après 9 mois d'absence pour une grave blessure au genou. Mais depuis quelques mois, c'est un peu plus compliqué quand même. On l'a vu la semaine dernière lors de l'élimination de Toulouse face à l'UBB en Champions Cup. On l'a vu aussi un peu en fin de tournoi destination. L'entraîneur des arrières du Stade Toulousain, Clément Poitrenaud, a volé au secours de son joueur cette semaine. C'est notre punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Oui, mais c'est toujours pareil, c'est le syndrome Michala, comme je dis souvent, on a montré tellement des choses incroyables que dès que t'es un peu moins bon, on te dit médiocre. Mais bon, si tu veux, ça reste un des meilleurs 10 du monde. Bon, mais Antoine, c'est un peu pareil. Forcément, il a pas fait que des choix judicieux, ses jeux au pied n'ont pas toujours été pertinent. Malgré tout, il a eu quelques coups d'éclat qui ont été intéressants, donc on est très dur avec lui. Ce que je peux comprendre, c'est lié à son statut et il l'assume complètement. Maintenant, nous, on connaît sa valeur et on sait que, compagnon, comme on l'a toujours fait, vous redonnera à nouveau satisfaction, j'espère.
Le syndrome Michalak, donné par Clément Poitrenaud. Les GG, je vous pose la question. Faut-il être patient ou exigeant avec Dupont? Oui ou non? Tiens, déjà, Alizé?
Les deux.
Les deux. Bennett?
Il faut être patient.
Simon?
Il faut être patient.
Frédéric?
Il faut être exigeant.
Ça m'aurait étonné. On vous attend au 32-16 et sur WhatsApp, évidemment, 06-12-424-424. Tiens, notre voix du rugby sur RMC est avec nous. Salut Wilfried Templier.
Ah, salut tout le monde.
Salut, bonjour Wilfried.
Évidemment, notre correspondant à Toulouse aussi. Alors Wilfried, c'est toi qui as posé la question à Clément Poitrenaud, hein, justement, sur la situation actuelle d'Antoine Dupont. Pourquoi t'as posé cette question?
Parce qu'on s'interroge sur Antoine Dupont, parce que c'est le capitaine du 15 de France, c'est l'étendard du rugby français. Comme tu l'as dit, depuis son retour, de toute façon, il a toujours été scruté, son jeu a été scruté, ses performances. Mais il revient d'une deuxième grave blessure au genou. Il est revenu depuis 4 mois et demi. Et puis, à l'instar de son équipe, le Stade Toulousain, il a connu des hauts et des bas, des très grands matchs. Hein, on le dit, là, il en a fait. cette saison contre La Rochelle au Stadium, contre on va dire l'Irlande, au Pays de Galles,
contre l'Italie aussi.
De France contre l'Italie, il était très bon. Mais parfois, voilà, en Écosse, la semaine dernière avec le Stade Toulousain, l'UBB, il a pas fait toujours les bons choix.
Et
il a pas pu empêcher, ouais, il a pas pu empêcher la défaite des siens aussi au Saracens ou à Glasgow, ce qui a un peu précipité le parcours difficile du Stade Toulousain. Et puis on s'est penché sur ses performances, sur ses que ce soit les alors je vais vous épargner toutes les stats hein, des ballons joués à la main, des franchissements, des défenseurs battus, mais là où notamment si on prend la saison 23-24 où il fait le doublé avec Toulouse, où il est extraordinaire en finale de Champions Cup face au Leinster, pour ceux qui se souviennent de ce match où il avait été fantastique. Eh bien, il y a un classement, voilà, de ces, dans ce que je vous ai dit, de toutes ces catégories où il était premier, deuxième devant des ailiers, devant des troisièmes lignes, même sur les ballons gagnés dans les runs.
Et là, c'est un peu moins le cas.
Bah, il apparaît dans aucune de ces catégories. Il y a toujours le PCR, mais les cinq premiers à chaque fois, il apparaît dans aucune de ces catégories.
Donc, il y a des choses factuelles quand même.
On est complètement inquiet pour Antoine Dupont, mais non, voilà, c'est ce que j'ai dit à Clément Poitrenaud. J'ai dit, Clément, dès qu'il traverse pas le terrain, la France du rugby se pose la question. Voilà.
Fred Weiss, toi, tu dis, il faut être exigeant avec Antoine Dupont.
Alors juste une question, c'est qui Antoine Dupont?
C'est le meilleur joueur du monde peut-être.
Ouais, voilà. Donc ouais. Si la question, comme dirait l'autre, ouais,
est vite. Ça reste un être humain quand même.
À un moment, quand tu es le meilleur joueur du monde, tu es sous les feux des projecteurs. Mais alors si. Alors déjà t'as un statut et tu es censé être comme ça. Donc moi je dis, mais en même temps ça me surprend pas que Tillisman me réponde ça, parce qu'eux ils ont du temps, eux ils préfèrent prendre du temps.
Il est passé à côté de beaucoup de matchs
Michael Jordan.
Pas beaucoup, mais comme Dupont.
On est d'accord.
Pas beaucoup, c'est comme Dupont.
Et qu'est-ce qu'on était avec Michael Jordan, exigeant ou on prenait notre temps?
Quand il revenait d'une ligament croisé, tu pouvais être patient avec lui.
C'est un très bon exemple pris par Bennett, effectivement. Quand t'es une superstar de ce niveau, quand t'es un joueur de ce niveau-là, tu dois être exigeant.
Est-ce que quand tu reviens bien physiquement,
donc à un moment, lui-même le dit, tout le monde le dit, on doit être exigeant avec une superstar. Il est très bon, il l'a été parfois, et à chaque fois qu'il est bon, tout le monde dit il est bon. On a le droit de dire quand il est moins bon. On a le droit de dire on a envie qu'il soit meilleur. On a envie qu'il revienne vite parce qu'on a justement le statut d'Antoine Dupont. Quand on a ce statut-là, on est forcément bien plus observé, évidemment.
Faut assumer. Réaliser.
Avant de te laisser la parole, Bennett, pour moi, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Évidemment, c'est un champion et on est exigeant avec les champions parce qu'on attend beaucoup d'eux. Mais ça reste aussi, au cas où tu leur oublies, un être humain qui revient de blessure, qui a ses hauts et ses bas. Et malgré tout, il arrive à performer la plupart du temps, mais évidemment donnons-lui un petit peu de temps pour qu'il revienne à son meilleur niveau. Enfin Fred, je veux dire, t'as été athlète, tu sais ce que c'est quand même. On peut pas être au top, comme le dit Julien, 365 jours par an. Tout Antoine Dupont que tu es, et je comprends que ce soit un champion, que ce soit une superstar.
Et donc on parle d'exigence avec lui.
Il revient quand même de blessure, oui, donc soyons exigeants dans ses performances à moyen terme, mais là sur le court terme, parce que ça reste encore du court terme. Il est revenu il y a pas si longtemps, il y a que quoi 4 mois, c'est
ça. Il est revenu très fort au début, et après c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué.
Voilà, c'est ça le truc.
Ayons un petit peu de patience, voilà. Tu le disais au début, Simon.
La patience dans le sport. Vous pensez vraiment qu'il y a de la patience dans le sport?
Mais non.
Parce que moi je ne connais pas ce mot-là.
Mais qu'est-ce que tu veux faire sinon? Te mettre en panique? C'est pas une solution en fait.
Ne pas lui mettre la pression. Juste être
exigeant. Mais tu crois que lui, il n'est pas exigeant avec lui-même?
Mais donc, quel est le problème? On est d'accord? Lui exigeant avec lui-même, soyons
exigeants avec lui. Mais c'est à lui de l'être avec lui-même,
parce qu'on le considère aussi fort. Si on le considérait moins fort, c'est moins exigeant. C'est une évidence.
Non, mais il faut être patient avec ses performances. En fait, l'anomalie, c'est que quand il est revenu, il a fait des performances XXL tout de suite.
Eh oui.
Et en fait, c'est là où c'est anormal après 8 mois de ligaments croisés. Ses performances en décembre, et Wilfried l'a rappelé en fin janvier, début février avec le 15 de France sur certains matchs, il a été très très bon. Et qu'aujourd'hui, il a une période un petit peu, entre guillemets, de décompensation et, suite à tous les efforts qu'il a fait pour revenir de cette blessure. Bon, bah, c'est normal.
C'est-à-dire qu'on s'est pas enflammé de par son retour.
Ça te fait pas un peu penser à l'histoire de Loïs Boisson? Qui est revenu comme une bombe après ses ligaments croisés, parce qu'elle avait une envie folle de jouer, il y avait un sentiment de revanche, il y avait quelque chose de très fort, une flamme au fond d'elle. Elle a très très bien joué à Roland, elle a très très bien joué juste après. Et après il y a eu un petit coup quand même. Blessée.
Je sais pas si on peut comparer, mais c'est pas le même potentiel. Oui, il a été moins bon la semaine dernière contre Bordeaux. Oui, il fait des erreurs, etc. Il faut être, c'est le premier à le savoir, mais il faut être patient. C'est pas pour autant qu'il va pas peut-être refaire gagner Toulouse le championnat au mois de juin.
Oui, pour répondre à Lydie, je pense que Loïs Boisson n'avait pas forcément les mêmes attentes puisqu'elle revenait pas des mêmes sommets. Il faut savoir de quoi on parle. T'as vu, c'est typique l'exemple. Tu trouves que c'est un bon exemple de Michael Jordan, excellent exemple. On parle d'Antoine Dupont et on est en train de servir de l'exemple d'un peut-être
un des grands sportifs.
Le meilleur joueur de son sport de l'histoire du sport. De quoi parle-t-on encore une fois? Parce que moi, depuis que je m'intéresse au rugby, que j'essaye d'y comprendre quelque chose, j'ai jamais vu un rugbyman. C'est, on parle du collectif, évidemment, jusqu'au cliché dans le rugby. Jamais je n'ai vu un joueur avoir autant d'influence sur les résultats de sa propre équipe. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il est le meilleur joueur du monde. Il faut voir d'où il revient. Et là aussi, c'est un cliché, mais quand t'es habitué à l'excellence, le très bon te paraît décevant, voire médiocre. Bennett l'a rappelé. Son retour, il n'a pas été très bon. Il a été extraordinaire. Le premier mois qu'il fait, alors qu'il revient de.
Donc on peut reconnaître quand c'est extraordinaire, on ne peut pas reconnaître quand c'est moyen.
En fait, c'est ça qui n'était pas normal. C'est le niveau qu'il a affiché lorsqu'il est revenu.
On l'a reconnu, on a dit que c'était pas normal.
C'est extraordinaire. Ce qui est la plus grave blessure pour un sportif de haut niveau, a fortiori pour un rugbyman. Dans le rugby, la brutalité, la violence des appuis fait que lorsque tu te remets d'une blessure pareille, c'est ce qu'il a fait, c'est prodigieux. Donc encore une fois, Wilfried l'a rappelé, va demander aux Irlandais s'ils l'ont trouvé décevant, Dupont, va demander.
Mais moi, à aucun moment,
je pose la question. Et encore une fois, tu as le droit.
Pose-nous la question, Georges.
Tu as le droit de considérer que l'Écosse, qui bosse bien depuis des années, que l'UBB, qui est le rival du Stade Toulousain, peuvent réussir une fois de temps en temps à le mettre dans la boîte et à limiter son
est-ce influence. Qu'on n'est pas plus gentil avec Antoine Dupont entre guillemets justement alors que par exemple on le serait pas avec Kylian Mbappé en foot
évidemment.
Dès que il a un match moins bon il est tout de suite sous le feu des projecteurs critiqué.
Mes collègues sont en train de me regarder comme si je lapidais Antoine Dupont. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que avec un athlète de ce niveau, et oui je le compare à Michael Jordan parce que dans les faits, dans son sport, il est quasiment à ce niveau là donc je le compare à Michael Jordan. À partir de là, je me dis oui. Et tu peux avoir des matchs moins bien. Oui, c'est normal. Évidemment, quand tu reviens de blessure. Sauf que, est-ce qu'on doit se contenter de ça? Non. Et donc, ça s'appelle de l'exigence.
Enfin, un Antoine Dupont décevant, il vaut quand même mieux que 90% des neufs de la planète.
En fait, on s'en fout de ce qu'il vaut par rapport aux autres. On veut que celui soit le plus performant possible.
Bennett, je réfléchis à ta question.
Sur Dupont Mbappé, sur l'exigence qu'on a envers les champions sur le sport.
Mais c'est pas pareil. Le foot, le rugby, c'est pas la même médiatisation, c'est pas la même.
Je trouve ça assez comparable.
Bon, on se rapproche beaucoup quand même, Bennett, là, en ce moment. Dernièrement, les résultats, l'équipe de France est au moins autant médiatisée.
Non, mais attendez. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi tout compte. C'est-à-dire que la personnalité d'Antoine Dupont, qui est une personnalité sympathique, pleine d'humilité et tout, on a envie de l'accompagner un peu plus naturellement, peut-être. Alors que le personnage de Kylian Mbappé, qui est un peu plus arrogant, un peu plus ambitieux. On a l'impression qu'on lui laisse rien passer de par son ambition affichée aussi. Je pense qu'il y a de ça finalement dans l'approche au-delà de sport, du foot ou du rugby ou pas.
C'est surtout parce que c'est le foot.
Évidemment. Mais ça peut faire réfléchir aussi sur le traitement. Wilfried, juste rapidement, il va jouer aujourd'hui Antoine Dupont face à Castres.
Il est remplaçant ce soir à Castres
qu'il est pas bon.
Il y a 6 jours dimanche. Il y a que 6 jours. Il y a beaucoup de changements dans l'équipe de Stade Toulousain. Il y a un match au Stadium la semaine prochaine contre Clermont. Il est remplaçant à Casse. Mais bon, juste pour finir, c'est l'image d'Antoine Dupont, c'est les coups d'éclat aussi. C'est pour ça que quand ils sont pas là, on se pose la question, c'est quoi l'image d'Antoine Dupont? C'est les JO, avec il rentre dans un match, il change tout, le Grand Chelem 2022, il contrôle l'Angleterre, il marque l'essai de la guerre.
Dès qu'on voit plus, on dit, ça va pas? Ça va ou quoi?
Mais on se pose la question, en fait. On se pose la question.
Oui.
Parce qu'il a placé le curseur à des altitudes jamais.
Mais oui, Quatronneau l'a dit, Simon. C'est son statut qui fait ça.
Mais exactement.
C'est quand même Mbappé, souvenez-vous, après la finale de la Coupe du Monde 2022, tout le monde voulait qu'il ne fasse que des performances stratosphériques après avoir réussi cette finale face à l'Argentine.
J'ai trouvé Wilfried exceptionnel aujourd'hui.
Après, on est très exigeant avec lui. On manque de patience parfois.
C'est vrai.
On veut toujours qu'il s'envoie un selfie.
N'importe quoi. Allez, merci Wilfried. On te retrouve ce soir évidemment aux commentaires de Castres-Toulouse, 21h, toute la journée de Top 14, la 21e à suivre sur RMC. Et d'ailleurs, abonnez-vous à notre podcast Entre les poteaux, notre podcast rugby de référence, pour retrouver toutes les semaines sur notre chaîne RMC.
Nous, on peut avoir un selfie de Wilfried Templi.
Ah, mais tu sais qu'il y a beaucoup de demandes sur WhatsApp.
C'est bon,
Eric Salio, c'est notre bon tennis.
Franchement, le selfie Salio, on n'en veut pas.
Mais il sera là tout à l'heure pour nous parler d'Arthur Fischer, pour lui demander en direct. Allez, le j'y crois pas, on revient dans un instant.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Dans un instant, dans le vestiaire des GG, on va parler de la part de malice dans le sport. Comment l'utiliser ou pas, alors qu'un joueur de tennis s'est fait huer cette semaine pour avoir gagné sur un bel de match dans un service à la cuillère. Je suis sûr que Fred l'aurait fait.
Faut appeler Denis.
Si j'avais su le faire, oui.
Pourquoi il faut appeler Denis?
Denis la malice.
Allez, tout de suite, j'y crois pas.
RMC, les grandes gueules du sport. J'y crois pas.
C'est la sidération en studio, évidemment. Je rappelle que le studio de Rire et Chanson est un petit peu plus loin.
Je vous enverrai.
Tu chantes aussi ou pas? On peut t'envoyer. Vous êtes sur RMC, restez avec nous sur RMC. Hein. J'y crois pas. Loïs Boisson, tiens. Ce n'est pas trop tard pour Roland Garros, pour l'avoir sur pied et pour l'avoir performé. Oui ou non?
Oui, j'y crois.
Bennett?
Il y a plus beaucoup trop de questions en une. Pour
oui, c'est ça.
Sur
c'est
truc,
est-ce que tu crois que c'est pas trop tard?
Bon. Ça veut dire quoi? T'attends quoi? C'est quoi l'espoir de l'avoir
performé? Est-ce que tu penses qu'elle peut performer à Roland Garros?
Et Loïs Boisson, la performance à Roland Garros, c'est quoi?
Quand t'as fait demi comme la dernière.
Mais non, mais quand on prépare les émissions, c'est pareil.
Non, bah oui, mais
Fred,
elle a dit quoi, Alizé?
Elle a dit j'y crois.
Oui, j'y crois pas.
Décidément,
j'en peux plus.
Moi, je crois que c'est pas trop tard.
Ok, Loïs Boisson a prévu de faire son retour à la compétition la semaine prochaine au WTA 1000 de Madrid. Après 6 mois et demi loin des cours, je rappelle, demi-finaliste de Roland Garros l'année dernière, elle a commencé une collaboration avec un nouveau coach néerlandais, Hendrik Wilschowers. Donc voilà, son troisième coach en un an. Loïs est absente du circuit, je le disais, depuis fin septembre. Tu y crois, toi, t'as envie d'y croire, Alizé?
Elle était déjà censée reprendre cette semaine à Rouen. Elle a décalé un petit peu. Je pense qu'elle attend d'être vraiment prête, d'être compétitive. Il faut pas oublier qu'il y a quand même encore quelques semaines avant Roland Garros. Il y a 2 Masters 1000. On n'appelle pas ça comme ça chez les filles, mais Rome Madrid 2000, plus potentiellement Strasbourg. Elle a de quoi faire encore quelques matchs avant Roland Garros. Mais par contre, là, il faut plus perdre de temps. Là, c'est la semaine prochaine.
Faut être exigeant.
Où ça va se compliquer? Non, pas exigeant, mais je pense qu'il faut qu'elle soit dans le timing. Et elle a été patiente. Elle a fait preuve de beaucoup de patience, mais là il faut être dans le timing pour pouvoir effectuer quelques matchs avant Roland-Garros, parce que là elle va arriver avec une sacrée épée de Damoclès. Elle a quasiment tous ses points à perdre à Roland-Garros. Alors certes elle a un classement protégé, mais il va y avoir quand même pas mal de pression. Donc là ce serait bien qu'elle se rassure sur son état physique et sur son tennis avant d'arriver à Paris.
Vas-y.
Non mais moi ce qui me permet d'y croire, c'est que personne ne la connaissait il y a encore un an et on n'attendait rien. Elle était quoi, 350e avant Roland l'an dernier. Donc c'est ça qui me donne espoir, parce que lorsque quand même tu te plonges dans son calendrier depuis qu'elle a arrêté de jouer, elle a pas joué depuis septembre dernier.
Le problème, c'est que depuis Roland Garros l'année dernière, elle a joué 5 tournois.
On a l'impression parfois de comprendre les lignes, c'est que elle place le curseur justement de l'exigence. Ça va te faire plaisir, Fred. Parfois peut-être un peu trop. J'entendais votre copain Nicolas Escudé là chez les amis d'Eurosport dire que bon, c'est rare dans une carrière qu'on joue en étant à 100% sans voilà. Et est-ce que elle va pas courir trop après la forme absolue avant de revenir? Moi c'est la crainte que j'ai, parce qu'en effet,
si elle avait pu revenir avant, elle serait revenue avant. Je pense qu'elle était vraiment handicapée par les différentes blessures qu'elle a contractées à partir de septembre. Elle va quand même manquer de rythme. Et puis, je me répète, mais en grand chelem, on ne peut pas se projeter. Elle ne va pas être tête de série. Donc, au premier tour, elle peut jouer Coco Gauff ou Sabalenka. Si elle perd 6-4, on va dire quoi? Elle n'est pas performante, c'est un mauvais Roland, etc. Mais c'est la réalité
du
truc.
Le tirage.
Donc, voilà, et c'est sûr que là, il va falloir qu'elle. Et par rapport à l'année dernière, où elle n'était pas tête de série, etc., mais elle avait gagné beaucoup de matchs sur terre battue l'année dernière en arrivant à Roland Garros. Là, cette année.
On n'imaginait pas, alors je me pose la question, on n'imaginait pas que ça pourrait être un starter, justement, pour elle. Depuis un an, elle ne joue pas beaucoup. Elle vient de changer d'entraîneur, elle a changé 3 fois. En fait, moi, je suis désolé, je ne suis pas vraiment rassuré par
ça. Alors, Fred, là, ce qu'il a dit, c'est exactement ça. C'est-à-dire que son coup d'éclat l'année dernière, le fait qu'elle fasse demi-finale, qu'elle prenne beaucoup de points d'un coup,
devait lui permettre de s'installer dans la hiérarchie pendant un an, de s'installer dans les 30 premières.
Alors que là, c'est un fardeau, peut-être?
Non, là, c'est pas un fardeau. C'est que,
elle n'a pas eu l'occasion
de le faire. Donc, en fait, pour reconstruire sa carrière, entre guillemets, se réinstaller, quelque part, elle repart de zéro. Parce qu'elle va avoir un classement protégé. Elle va perdre quand même beaucoup de points. Et donc, du coup, il va falloir qu'elle reconstruise tout pour s'installer dans les 50 premières.
J'y crois pas, les amis. En Ligue 1, Lens va mettre la pression sur le PSG pour le titre. Encore. Simon ?
J'y crois pas.
Fred ?
Malheureusement, j'y crois pas.
Alizé ?
Non, j'y crois pas.
Bennett ?
Bah, j'y crois pas. Ils ont 14 matchs d'avance, de retard, de trucs.
Alors, c'est ça. Paris a 2 matchs de retard et 1 point d'avance. Bon. Victoire renversante 3-2 hier des Lensois après avoir été mené 2-0. Gagnou a offert la victoire dans le temps additionnel. Lens est à 1 point de Paris, oui, mais qui compte 2 matchs en moins.
Voilà.
Et joue contre Lyon dimanche. Il y aura un Lens-Paris à rattraper, notamment. C'est quand même important dans le calcul des points.
Oui, mais le Lens-Paris, il va avoir lieu juste avant la dernière journée. Ça se trouve, il servira à rien. C'est ça qui est scandaleux.
Tiens, on a Grégoire, supporter lensois, qui nous a appelé. Il était au match hier. Salut Grégoire, bienvenue dans les grandes gueules du sport.
Salut les GG.
Salut.
Bah tiens, je te pose la question. Est-ce que tu y crois, toi, que Lens va mettre la pression sur le PSG pour le titre encore?
C'est trop tard.
Bon, faut être lucide. Je pense que malheureusement, je pense que c'est plié pour le championnat, mais en tout cas, c'est pas péjoratif et ça n'enlève rien à leur saison extraordinaire. Là, on a notre objectif, c'est la Coupe de France. Et si on finit deuxième et qu'on gagne la Coupe de France, moi, je signe tout de suite.
Voilà, bien sûr.
Donc voilà, le championnat, voilà, il faut être objectif. Je pense que malheureusement, c'est terminé. Mais ça n'enlève rien à la saison exceptionnelle. Encore hier, on voit moi, j'étais au stade avec ma section bus magique que j'embrasse. Et on a vécu un match encore une fois exceptionnel. Ils nous font rêver de match après match. Et j'en profite également pour apporter mon soutien à Robin Risseur qui fait une saison extraordinaire.
Regardez.
Malheureusement. Bon, il s'est un petit peu planté sur le premier but, ça arrive. Mais encore une fois, quel match. 41 tirs dans un match, je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça.
Ah bah, c'était un super match. Franchement, c'était un super match, Grégoire. Et c'est pour ça aussi qu'on se posait la question, parce que c'est vrai que les Lensois, là, ils se redonnent du souffle pour cette fin de saison. Et tu le disais, effectivement, Lens retrouvera Toulouse mercredi en demi-finale de la Coupe de France. Toute la journée de Ligue 1, évidemment, à suivre sur RMC, avec notamment Lorient, Marseille et Nice ce soir. Et tiens, je vous précise également que sur la page YouTube de l'After RMC, vous avez accès au nouvel épisode de la nouvelle voix de l'After qui était à Rennes. Hein, c'est Nico Jamin, Walid Acharchour et Kevin Diaz qui cherchent une nouvelle voix pour l'After et qui sont en Bretagne. Je faisais Alf,
le président
Bribois. Donc voilà, je vous invite à regarder. Il y a un premier épisode également qui avait été fait à Paris. C'est un peu The Voice, hein, mais version nouvelle voix à retrouver pour être un chroniqueur dans l'After. C'est en ligne et c'est évidemment super. Fred Weiss a reçu, comme promis, un selfie de Wilfried Templier, notre voix du rugby. Ça se passe comme ça sur RMC dans les grandes gueules du sport. On est des grands amis. Restez avec nous, faites partie de la famille. À tout de suite dans les grandes gueules du sport avec le vestiaire et Arthur Fils au programme.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.